de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La ministre indonésienne des Affaires étrangères qualifie l'Indonésie de premier pays à évacuer ses citoyens en Turquie. Le bateau moteur F1 de Lac Toba devrait avoir un impact significatif sur l'économie du nord de Sumatra. La marine indonésienne organise la 22e réunion internationale de la NIOHC Yogyakarta. Le ministère des Entreprises publiques est prêt à lancer une station service de bioéthanol à Surabaya. Le vice-ministre des Finances a déclaré que l'Indonésie ne serait pas en mesure de croître si la part des importations était plus importante. La marine indonésienne a préparé une équipe médicale pour renforcer l'aide humanitaire Turquie-Syrie. Le Pakistan a envoyé 4,7 tonnes d'aide humanitaire à la Turquie. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'ambassade d'Indonésie à Ankara, en Turquie, était le premier représentant étranger à évacuer ses citoyens après le tremblement de terre qui a frappé la Turquie. Dans un communiqué reçu lundi 13 février à Jakarta, Retno Marsudi a déclaré qu'il y avait environ 500 citoyens indonésiens vivant dans la zone touchée par le tremblement de terre de magnitude de 7,8.
Indonesia adalah perwakilan asing pertama.
L'Indonésie est le premier représentant étranger à évacuer ses propres citoyens en Turquie. Retno Marsudi a ajouté que dans les efforts de la première phase, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de l'ambassade d'Indonésie à Ankara, avait réussi à évacuer 123 personnes, dont deux citoyens malais et un citoyen birman. Pendant ce temps, 8 autres personnes, composées de 5 citoyens indonésiens et 3 citoyens philippins, sont toujours dans le processus d'évacuation de la deuxième phase. De plus, deux citoyens indonésiens sont morts et ont été enterrés à Karamanmaras. Pendant ce temps, des citoyens indonésiens blessés ont été soignés à l'hôpital. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré que le bateau à moteur F1 de Lac Toba était l'une des stratégies de relance économique et des opportunités commerciales pour les habitants du nord de Sumatra. Dans le bref hebdomadaire avec Sandi Uno, lundi 13 février à Jakarta, il a déclaré que cet événement international devrait attirer l'attention des médias numériques et avoir un impact significatif sur l'économie du nord de Sumatra.
Dan F1 powerboat ini diprediksi akan meraih atensi 180 juta.
El lebatu amotok ef ang de bukai atike la tangsung de sang katraving milyong dang presyong sur le media numerik ya ve ang nang pak direk de sang 12 miliar de rupiah sur l'ekonomi du nord de Sumatra. Sandiaga Uno ang notre déclaré que l'impact économique direct de bateau à moteur F1 serait davantage ressenti par le secteur des MPME. Selon lui, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a organisé la formation et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement afin que les MPME puissent maximiser le potentiel économique existant lors de la tenue du bateau à moteur F1 de Lac Toba. Le bateau à moteur F1 de Lac Toba se tiendra du 24 au 26 février 2023. Ce championnat est suivi par 20 participants de 10 équipes venant de divers pays, entre autres l'Angleterre, l'Ukraine, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Portugal, le Brésil, la France, la Corée du Sud et le Qatar. Le Centre hydro-océanographique de la marine indonésienne, Pusidrosal, a tenu la 22e réunion de la Commission hydrographique internationale du nord de l'océan Indien, Showa, à Yogyakarta, du 13 au 15 février 2023. Cité d'Antara, le commandant de Pusidrosal, le vice-amiral de TNI Nur Hidayat, en marge de l'ouverture de la réunion à Yogyakarta, a déclaré lundi 13 février que les délégations des pays membres de la Showa, qui étaient présentes comme prenaient le Bangladesh, l'Inde, Oman, l'Australie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, la Thaïlande, l'Angleterre et l'Indonésie en tant qu'hôte. La Showa, ou Commission hydrographique du nord de l'océan Indien, fait partie de l'Organisation hydrographique internationale OHI. Outre les pays membres de la Showa, un certain nombre de pays tels que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie ont également participé en tant qu'observateurs. Selon Nur Hidayat, la réunion des trois jours devrait permettre de renforcer la compréhension mutuelle de l'importance de l'hydrographie pour soutenir la transformation de l'économie bleue mondiale, ainsi de répondre aux défis des Nations Unies dans la réalisation des objectifs de développement durable. Le ministre des Entreprises publiques, BUMN, Eric Thohir, est prêt à lancer une station-service au bioéthanol à Surabaya dans les 3 à 4 prochains mois. Cité d'Antara, lors de la réunion de travail conjointe de la Commission 6 de DPRRI lundi 13 février à Jakarta, Eric a déclaré que la raison de cette station-service de bioéthanol à Surabaya est que le bioéthanol est le même que le biodiesel B35 qui est un type de mazout BBM dérivé de plantes. Ainsi, selon lui, ce bioéthanol a un processus logistique plus complexe par rapport au carburant issu du pétrole. Le vice-ministre des Finances, Suhasil Nazara, a déclaré que l'Indonésie ne serait pas en mesure de croître si la part des importations était continuellement supérieure à l'utilisation des produits nationaux. Selon Suhasil Nazara, des importations excessives pourraient entraver la croissance industrielle et la croissance économique du pays. Comme cité d'Antara lors du séminaire à Jakarta, lundi 13 février, il a déclaré que l'utilisation de produits nationaux est l'une des sources de la nouvelle croissance économique en Indonésie. Suhasil a ajouté que l'utilisation de produits nationaux est également une préoccupation lors de la réalisation de l'aval qui est également une autre source de nouvelle croissance économique dans le pays. L'aval, selon Suhasil Nazara, est une activité que le gouvernement continue actuellement d'intensifier pour que l'Indonésie puisse aller de l'avant, sortir du piège des revenus de la classe moyenne et créer un revenu par habitant plus élevé. Outre l'utilisation des produits nationaux et en aval, il a indiqué qu'il existait également 4 autres nouvelles sources de croissance économique, à savoir l'utilisation de l'économie numérique, le développement des MPME, le développement d'une économie verte et la transition vers les énergies renouvelables. Le chef d'état-major de la marine indonésienne, l'amiral TNI Muhammad Ali, a déclaré que sa partie préparait une équipe à la fois des agents de santé et un bataillon de santé pour renforcer l'aide humanitaire de l'Indonésie aux victimes du tremblement de terre en Turquie si nécessaire. Niang moang, il a déclaré que la cargaison de la marine indonésienne attendait toujours les résultats d'une enquête menée par l'équipe avancée de TNI en collaboration avec l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, Basarnas, et l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, concernant les principaux besoins des victimes du désastre. S'exprimant au quartier général de la marine indonésienne à Cilangkap, Jakarta, lundi 13 février, Ali a également ajouté que, si nécessaire, la marine indonésienne est également prête à envoyer un navire d'aide hospitalière au KBRS en Turquie. Actuellement, la marine indonésienne compte 3 unités KBRS, à savoir KRI Dr. Soeharto 990, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 et KRI Dr. Rajiman Wedyodiningrat 992. Kassal a souligné que la marine indonésienne ferait les meilleurs préparatifs possibles pour renforcer l'aide humanitaire de l'Indonésie à la Turquie, compte tenu des bonnes relations entre les deux pays. L'Autorité nationale pakistanaise de gestion de catastrophes, NDMA, a envoyé dimanche une autre aide spéciale dans le cadre de ses efforts de secours humanitaire dans plusieurs zones touchées par le tremblement de terre en Turquie. Comme cité d'Antara lundi, les fournitures d'aide contenant 4,7 tonnes de frais, dont 1446 couvertures d'hiver étantes, ont été envoyées via des vols affrétés par Pakistan International Airlines. La NDMA a ajouté que davantage de fournitures de secours de ce type seraient envoyées en Turquie dans les prochains jours, conformément aux instructions du Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif. Lors de donner le discours à l'aéroport de la ville de Lahore, dans l'est du Pakistan, vendredi 10 février, où le lieu des articles de secours ont été livrés aux victimes du tremblement de terre, Sharif a déclaré que le Pakistan continuerait d'aider le pays sinistré chaque jour et ne quitterait jamais la Turquie dans un tel état seul. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Oh, no.
C'est le directeur, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « Le ministère du tourisme et de la communication augmente les visites des touristes de l'archipel en facilitant l'octroi de licences d'activité ». La pandémie de COVID-19 qui a frappé l'Indonésie et le monde a complètement stoppé diverses activités de l'industrie du divertissement. En Indonésie, l'arrêt de ces activités a commencé depuis que le gouvernement a imposé des réglementations sur les restrictions sociales à grande échelle, PSBB, le 15 mars 2020, peu de temps après la découverte du premier cas de COVID-19 en Indonésie. Bien sûr, ces restrictions ont un impact majeur sur presque toutes les industries, y compris les industries de la création et du divertissement. Ceux qui ressentent le plus l'impact de cette pandémie sont les travailleurs des arts qui ont perdu leur emploi parce que plusieurs concerts et festivals ont été reportés ou annulés. Cette condition affecte certainement le secteur économique et le revenu national, en particulier les revenus des secteurs du tourisme et de l'économie créative. Maintenant, après presque 3 ans se sont écoulés et avec l'amélioration du cas de COVID-19 en Indonésie et la levée de la mise en œuvre des restrictions sur les activités communautaires, PPKM Indonésie, par le président Joko Widodo, à partir du 30 décembre 2022, il est temps pour l'industrie de la création et du divertissement récupère. Plusieurs concerts de musique et expositions ont commencé à se tenir hors ligne. Le public a également salué la tenue d'un concert de musique après presque 2-3 ans. Le concert de musique n'a pas eu lieu en direct. Cependant, les organisateurs de spectacles sont souvent entravés d'obtenir des autorisations pour la mise en œuvre d'activités, notamment en termes de temps. Pour cette raison, le ministère du Tourisme et de l'économie créative prépare un mécanisme visant à faciliter l'octroi de licences pour la mise en œuvre des activités à travers le programme de numérisation complète et transparente. Cela est transmis par l'agent aux produits touristiques et organisateurs d'activités du ministère du Tourisme et de l'économie créative, Vincent Jumadu, à Jakarta, lundi 13 février. Il a expliqué qu'à travers ce mécanisme, le ministère du Tourisme et de l'économie créative s'efforce à rendre transparent tous les processus d'octroi de licence. Sa partie coordonne également avec plusieurs agences connexes pour réaliser le schéma de numérisation des permis pour la mise en œuvre de cette activité. Le processus d'obtention des autorisations est l'une des choses qui préoccupe les acteurs du domaine de la musique et d'autres activités, car ils sont considérés de prendre le long temps. Bien sûr, les modifications du mécanisme d'autorisation devraient faciliter la tâche des acteurs et des promoteurs des activités, car ils disposent de suffisamment de temps pour préparer et promouvoir leurs activités. En facilitant l'octroi de licence, on espère que les industries du divertissement et de la création en Indonésie seront encore plus dynamiques. Enfin, le revenu économique national peut augmenter. C'était le commentaire pour ce soir. Cédric, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 février 1914, la rébellion PETA à Blitar, Java-Est. Le 14 février 1945, les troupes de PETA à Blitar, sous la direction de Supriyadi, se sont rébellées. Le plan de rébellion a été déclenché parce que les jeunes commandants ont été touchés par la souffrance du peuple indonésien traité comme des esclaves par l'armée japonaise. La rébellion PETA a été réprimée avec succès par les occupants en utilisant des troupes zangdizen qui n'étaient pas impliquées dans la rébellion à la fois des unités PETA ou Heiho. 78 officiers et soldats de PETA de Blitar ont finalement été arrêtés pour être jugés à Jakarta. Mais Supriyadi est porté disparu jusqu'à présent. Le 9 août 1975, Supriyadi a été officiellement déclaré héros national d'Indonésie. Passons maintenant à l'événement du 14 février 2005, l'ancien premier ministre du Liban, Rafik Hariri, a été tué. L'ancien premier ministre libanais Rafik Hariri a été tué dans l'explosion d'une bombe à l'ouest de la capitale Beyrouth le 14 février 2005. La tentative d'assassinat de Hariri a également tué 9 personnes et blessé 100 autres. Environ 300 kg d'explosifs ont explosé lorsque son cortège passait devant l'hôtel Saint-Georges à Beyrouth. Le meurtre a eu lieu au milieu de tensions politiques croissantes entre la Syrie, qui est un allié politique du Liban, et l'opposition. Hariri venait de démissionner de son poste de premier ministre du Liban en octobre 2004 et avait rejoint l'opposition. Chers auditeurs, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 14 février 2005. YouTube a été officiellement enregistré. YouTube est un site web de partage de vidéos créé par trois anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Javed Karim. YouTube est officiellement enregistré pour la première fois le 14 février 2005. Ce site web permet aux utilisateurs de télécharger, de regarder et de partager des vidéos. En novembre 2006, YouTube LLC a été acheté par Google pour 1,65 milliard de dollars américains et fonctionne officiellement comme une filiale de Google. C'est Juritan, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Dan melaju, spera, spera, speraku melaju membawaku di jalan itu. Aku melihat dirimu naik sepeda dan ku ikuti speramu. Spera, spera, speraku setia membawaku. Spera, spera, speraku kisah baru di jalan itu. Aku menggoda dirimu naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Ku kayu lebih kencang mengikuti sepedamu, dan kau pun tersenyum memberiku harapan. Na 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 na. Membawaku, spera, spera, speraku memberi kisah baru di jalan itu. Aku menggoda dirimu naik sepeda, ku berkenalan denganmu. Oh, ku kayu lebih kencang mengikuti speramu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie intitulée Ministère des Affaires étrangères invite la délégation suisse à examiner le développement de l'IKN de l'archipel. IKN Nusantara. Vous êtes avec moi, Audrey. Le directeur général pour l'Amérique et l'Europe du ministère indonésien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Umar Hadi, a invité la délégation du ministère suisse des Affaires étrangères, conduite par l'ambassadeur Heinrich Schellenberg, chef de la division Asie et Pacifique du ministère suisse des Affaires étrangères, à faire à visiter directement sur le chantier de construction de la capitale nationale de l'archipel, IKN Nusantara, dans Kalimantan oriental, le 8 février 2023. Comme cité par la page kemlu.go.id, 10 février, depuis l'inauguration du Zero Point Groundbreaking du président Joko Widodo en mars 2022, la visite de la délégation suisse était la première visite d'une délégation gouvernementale d'un pays ami à IKN Nusantara. La délégation a été accueillie par le chef de l'autorité IKN, Bambang Susantono, qui a été accompagné du chef adjoint de Doni Rahajo, du secrétaire Jaka Santos, de l'adjoint au contrôle des ressources environnementales et naturelles, Mirna A. Safitri, et de la porte-parole de l'autorité IKN, Diani Sadiawati, au bureau du logement des travailleurs IKN Nusantara. Dans le prolongement de l'engagement avec des partenaires internationaux en marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, en janvier dernier, le chef de l'autorité IKN a invité des investisseurs et des experts suisses à participer au développement de l'Indonésie en tant que ville forestière intelligente et durable. La délégation suisse s'est déclarée prête à faciliter la coopération entre l'autorité IKN et des partenaires potentiels suisses, notamment dans les domaines de l'urbanisme, des transports publics, de la formation professionnelle et de la durabilité environnementale. La visite de la capitale nationale de l'archipel IKN Nusantara a eu lieu le deuxième jour où la délégation suisse était à Kalimantan oriental. Auparavant, le 7 février, le directeur général pour l'Amérique et l'Europe du ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, l'ambassadeur Umar Hadi, et l'ambassadeur de Suisse en Indonésie, Schellenberg, ont présidé le 8e tour de la réunion de dialogue politique indonésien-suisse à Balikpapan. L'Indonésie et la Suisse ont enregistré un certain nombre de réalisations importantes dans leurs relations bilatérales ces dernières années, notamment la signature de l'accord de protection et de renforcement des investissements Indonésie-Suisse à Davos, en Suisse, le 24 mai 2022 et l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique global CEPA Indonésie-Suisse avec les pays membres de l'Association européenne de libre-échange AELE, barré CEPA Indonésie AELE depuis le 1er novembre 2021. L'ambassadeur Umar Hadi a déclaré qu'en dehors du secteur économique, il y avait beaucoup de progrès dans la coopération entre l'Indonésie et la Suisse dans d'autres domaines, notamment l'atténuation et la gestion des catastrophes naturelles, l'enseignement professionnel, les droits de l'homme et le développement durable. Selon lui, La valeur Indonésie-Suisse doit utiliser des valeurs et des principes partagés afin de produire une coopération concrète. Bon chargé d'État, c'est tout mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Dan kesedihanmu jangan disimpan untuk sendiri. Ada aku yang selalu mau ikut terbawa perasaanmu. Berbagilah apapun itu. Jangan hanya senang dan gembira, biarkanlah aku pun pilu saat kau merasa begitu. Izinkan aku juga merasakan.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter Yangko, un gâteau typique de la ville de Yogyakarta. Yogyakarta n'est pas seulement riche en attractions touristiques, mais aussi riche en tourisme culinaire. Différents types de tourisme culinaire à Yogyakarta sont les préférés de nombreux touristes et résidents locaux. Des vacances à Yogyakarta ne seront pas complètes si vous n'apportez pas de yangko. La nourriture spéciale de Yogyakarta est gudeg et aussi bakpia. Mais il y a une nourriture spéciale qui convient aux souvenirs de Yogya, nommé Yangko, qui vient de l'un des quartiers de la ville de Yogyakarta, à savoir Kota Gede. Yangko est un gâteau traditionnel de Yogyakarta à base de farin de riz gluant. La forme est une petite boîte, la texture est moelleuse avec une variété de couleurs. La texture moelleuse de yangko provient de la farine de riz gluant qui est son ingrédient principal. La pâte de farine mélangée à du sucre en poudre est remplie de cacahuètes. Yangko vient de la région de Kota Gede, Yogyakarta. Dans le passé, Kota Gede était la capitale du royaume islamique de Mataram, un grand empire qui est devenu le précurseur de Sunan de Surakarta et Sultanat de Yogyakarta. Auparavant, cette nourriture était connue sous le nom de nourriture de roi ou priayi. Pas tous les gens peuvent l'acheter parce que le prix est assez cher à cette époque. Mais maintenant, tout le monde peut profiter de yangko. Ce gâteau a maintenant été désigné comme patrimoine culturel immatériel de l'Indonésie en 2022. Vous pouvez maintenant choisir plusieurs saveurs de yangko telles que les saveurs de chocolat, de durian, de melon et de fraise. Ce gâteau de riz gluant est aussi coloré pour faire bonne impression et le prix de cet aliment est également relativement bon marché, environ 10 000 jusqu'à 15 000 rupiah par boîte. Dans une boîte contient généralement plusieurs saveurs. Yangko est en effet très approprié pour les souvenirs car en plus d'être bon marché, le gâteau n'est pas facilement rassi et peut se conserver longtemps. Chers amis, c'est un magazine culturel de la voix de l'Indonésie à Yogyakarta, intitulé Yangko, un gâteau typique de la ville de Yogyakarta. Merci à tous, à bientôt.
Lagu cinta melulu, kita memang benar-benar Melayu. Suka mendayu-dayu, lagu cinta melulu.
naga yamino. Lagu perselingkuhan atas nama pasar, semuanya begitu klise. Elegi patah hati, ode pengusir rindu atas nama pasar, semuanya begitu banal. Oh oh oh, lagu cinta melulu, kita memang benar-benar melayu. Suka
Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs, solitaires, bonsoir, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie,
du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Facilitas apa? Quelles installations? Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Facilitas apa? Quelles installations? Cette conversation se déroule entre un touriste indien, Dev Singh, et un réceptionniste d'hôtel. Dev pose des questions sur les installations de l'hôtel. Bonne écoute. Dev, facilitas apa yang buka selama 24 jam? Fasilitas apa yang buka selama 24 jam? Resepsionis. Restoran dan spa. Restoran dan spa. Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Fasilitas apa? Quelles installations? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Facilitas, installation. Apa, quel? Yang buka, qui sont ouvertes? Selama 24 jam, pour 24 heures. Fasilitas apa yang buka selama 24 jam? Fasilitas apa yang buka selama 24 jam? Quelles installations qui sont ouvertes pour 24 heures? Dans la conversation, vous avez entendu la phrase Fasilitas apa yang buka selama 24 jam? Fasilitas apa yang buka selama 24 jam? En français, quelles installations sont ouvertes pour 24 heures? Dans cette expression, il y a un mot interrogatif apa. Apa, quel? Mot interrogatif apa. Apa, quel? Est utilisé pour demander quelque chose qui fait l'objet d'une conversation. Le mot facilitas, installation, était un sujet de conversation entre Def et le réceptionniste. Le mot interrogatif apa, quel, peut être placé après le sujet. Maintenant, écoutons d'autres exemples. Le mot interrogatif apa, quel, peut également être placé avant le sujet de la conversation. Par exemple, apa facilitas yang buka selama 24 jam? Apa fasilitas yang buka selama 24 jam? Quelles installations sont ouvertes pour 24 heures? Pour demander des alternatives ou diverses installations ouvertes pour 24 heures à l'hôtel. Bon, chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute. Dev, facilitas apa yang buka selama 24 jam? Facilitas apa yang buka selama 24 jam? Resepsionis. Restoran dan spa. Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et de votre fidélité. Au revoir.
Langit yang kan menjelang, sinarnya yang tak akan pernah hilang. Setelah lewati penantian panjang yang tak berujung dan terus merah. Kini tiba waktu yang dinanti, sudah lama saling pahami hati. Satu keyakinan memasti, kau yang selama ini ku cari. Kini tiba waktunya, kau dan aku sekarang jadi kita. Janji yang pernah ada telah terbukti dan jadi nyata. Terima kasih, oh Tuhan, kini kami telah kau persatukan. Dan takkan pernah ku siakan anugerah terindah yang kau berikan. Kini tiba waktu yang dinanti, sudah lama saling pahami hati. Satu keyakinan memasti, kau yang selama ini ku cari. Janji yang pernah ada telah terbukti dan jadi nyata. Terima kasih, oh Tuhan, kini kami telah kau persatukan. Dan takkan pernah ku siakan anugerah terindah yang kau berikan.
Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Chers auditeurs, cette fois-ci, je vous donne une chanson malaise intitulée Joget Pulau Buau, chantée par Wak Dor. Créée par Abdul Razak Al-Bentani, cette chanson malaise raconte de l'île de Buau à la région de Bintan, dans les îles Riau. Dans les paroles, on dit que l'île de Buau a des arbres verts ombragés avec des belles plages. Sur cette île, les gens attrapent volontiers des oiseaux, nagent et attrapent du poisson. Sur cette île, les gens attrapent volontiers des oiseaux, nagent et attrapent du poisson. Selon le créateur de la chanson, Abdul Razak Al-Bentani, il a composé cette chanson pour commémorer sa ville natale, le village de Mentigi sur l'île de Buau. Bon, chers auditeurs, voici Joget Pulau Buau de Wak Dor. Bonne écoute!
Di hutan, di hening senja kala kehidupan. Alangkah indahnya ciptaan Tuhan, lautnya biru dalam tatapan. Anak nelayan menangkap ikan, kala mentari semakin menyengat. Risalah hati tiada berpadan, menatap pantai hilanglah pernah. Pulau buau tempat berenang, pasir rumit pantainya indah. Hiasan permai damai dan tenang, hilangkan hati yang sedang gundah.
Kita meniti anak ayam di dalam kandang. Janganlah kita berisau di hati, mari kita joget berdendang. Burung murai di atas jerami, hinggap sebentar di ranting bakau. Cuba dengar lagu kami, judulnya Joget Pulau Buau.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.